Le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1. Africa.
Le journal des auditeurs, c'est votre émission. Bienvenue à tous. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, vendredi 28 décembre 2018, c'est la libre antenne dans le JDA. Appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine. Élections en République démocratique du Congo, législatives au Togo et situation de l'opposition au Bénin. Pour nous donner votre avis sur ces sujets ou sur d'autres, appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Le 01 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, on écoute vos messages et laissez sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour amis auditeurs de JDA. J'aimerais franchement interpeller l'Union européenne et la France par rapport à la crise togolaise et qui ferme les yeux sur ce qui se passe au Togo. Il est indécent de laisser se perpétuer un régime qualifié de despotique qui viole tous les droits de l'homme les plus élémentaires. La CEDEAO et l'Union africaine ont montré leur vrai visage dans cette crise, incapable de dire la vérité, incapable d'examiner, d'analyser la situation et de trouver une issue. La France a le dernier mot, a un rôle prépondérant à jouer dès maintenant, avant que ça ne se dégénère. Les Togolais n'en peuvent plus. Merci.
Bonjour les Congolais et Congolaises de la RDC. Debout Congolais unis par le son. Congolais et Congolaises de la RDC, s'il vous plaît, soyons vigilants et surtout soudés la main dans la main. Hommes, femmes, jeunes et vieux, le grand problème dans notre pays, c'est l'occupation. Et alors, la RDC n'est pas un royaume. Et surtout, nous avons commis des fautes graves d'accepter l'inacceptable. Ministre, député, maire des communes, s'il vous plaît. La population est dans la misère, nos étudiants dans la galère, l'est de la RDC dans le chaos. Kabila et son système doivent partir cette année. Merci, c'est pour mon matin. Ciao.
Oui, cher ami du JDA et M. Nadir, bonjour. Je me permets d'intervenir par rapport aux élections au Congo. J'émets des doutes sérieux et raisonnables pour ces élections de dimanche. Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des élections, une partie et une autre partie ne pas voir. Et puis, comment peut-on dire qu'on peut proclamer les résultats le 15 alors qu'une partie sont reportées au mois de mars? Vraiment, j'ai des doutes sérieux et raisonnables. J'ai des inquiétudes. Voici ma modeste contribution pour cette cause. Je souhaite mes meilleurs vœux à tous les auditeurs et je souhaite vraiment que ces élections se passent dans le calme et dans l'apaisement et puis la transparence. Mais vraiment, je sais qu'il n'y aura pas la transparence, la fraude et les flagrantes. Bien des choses à tout le monde. Dieu donné qu'à son goût. À très bientôt. Ciao, ciao.
Peuple congolais, peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Le peuple congolais, nous avons donné corps et âme avec la détermination pour la libération de la République démocratique du Congo. Notre problème est dans les mains du Rwanda, du Paul Kagame, du Uganda, de Museveni. Les occupants qui ne veulent pas quitter le Congo, qui ont trouvé du miel dans notre pays, ils sont venus détruire le Congo et ramasser les richesses du Congo, ils sont en train de mettre du trouble et ils nous ont imposé les grands marionnettes qui est Kanembe, alias Kabila, qui ne veulent pas partir. La seule, l'unique option peuple congolais, c'est l'article 104 qui nous donne l'autorité, qui nous donne l'aval de faire partie un groupe de gens qui ne veulent pas partir, qui ne veulent pas organiser des élections.
Bonjour Africa numéro 1. Mon appel de ce matin est celui d'un Africain qui pleure. Qui pleure parce que l'Afrique, en tant que continent, ne dispose plus de dirigeants qui sont capables de défendre les intérêts des Africains. Je vous parle aujourd'hui en tant que Camerounais et en tant que francophone. Et en tant que Camerounais, les Camerounais ont élu M. Paul Biya à 70%, voire même plus. Et voici quelques jours, ça fait 3-4 jours que dans une ville comme Douala, il n'y a pas de lumière depuis 4-5 jours et les gens ne savent plus quoi faire. Mais comment dire que élire une personne comme Paul Biya et quelques mois après, on n'a plus de lumière dans son propre pays? Je voudrais dire aux Africains que vous méritez les dirigeants que vous avez. Vous avez élu quelqu'un qui a plus de 80 ans et qui ne vous donne pas la lumière depuis quelques jours. Et vous souffrez. Et si c'était à refaire, vous referez la même bêtise. Et c'est ce que je voulais dire. J'ai l'amertume. Je me pose la question que pourquoi l'Afrique mérite cela. Les dirigeants africains ne sont plus à la hauteur des tâches qui leur sont confiées. Ça, c'était mon indignation de ce matin. Et je dis par avance, bonne et heureuse année à tous les Africains et gardons le cap, l'avenir est devant nous. Merci et bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, c'est la libre antenne dans le JDA. Appelez-nous pour vous exprimer sur les sujets de votre choix ou sur ceux évoqués cette semaine. Lundi et jeudi, nous sommes revenus sur les élections en République démocratique du Congo. Ces élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre ont été reportées au 30 décembre. Et nouveau coup de théâtre cette semaine, puisque la CENI a annoncé le report des élections dans les circonscriptions de Beni et Butembo, mais aussi à Yumbi. Les raisons évoquées par les autorités sont l'insécurité et Ebola. L'opposition politique, mais aussi l'Église catholique et le comité laïque de coordination ont vivement critiqué ce report. Et à 2 jours des élections, la CENI assure n'avoir toujours pas suffisamment de machines à voter pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote prévus à Kinshasa, la capitale. Et sachez par ailleurs que la coalition autour du candidat d'opposition Martin Fayulu a appelé à une journée ville morte aujourd'hui dans toute la RDC pour protester contre le report partiel des élections dans plusieurs régions. Mardi, nous avons parlé d'une autre élection qui s'est tenue au Togo le 20 décembre dernier, des élections législatives. Et selon des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale, le parti présidentiel Union pour la République a raflé la majorité des sièges. Ce scrutin a été organisé dans un contexte de crise et boycotté par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. L'opposition qui appelle aujourd'hui à de nouvelles mobilisations. Mercredi, nous avons évoqué la situation de l'opposition politique au Bénin. Komi Koutché, ancien ministre d'État chargé de l'économie dans le gouvernement de l'ancien président Boni Yayi, a été arrêté le 14 décembre dernier à Madrid, en Espagne. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la justice béninoise dans un dossier lié à sa gestion en qualité de patron du Fonds national de microcrédit. Komi Koutché est une figure de l'opposition béninoise et certains opposants au régime de Patrice Talon ont dénoncé cette arrestation qui illustre, selon eux, de la dégradation de la situation de l'opposition dans ce pays. Nous attendons vos appels sur ces sujets ou sur d'autres. L'actualité, vous le savez, étant toujours très riche, le 01 55 07 58 00, c'est la libre antenne du vendredi. Et nous allons prendre tout de suite des auditeurs. Nous avons en ligne Karim. Karim, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Karim, on vous écoute, bienvenue.
Bienvenue, bonne journée, joyeuse fête pour vous d'abord.
Merci, à vous aussi.
Je tiens à intervenir à propos du dialogue que le président de l'Église Sassou Nguesso veut à Vanza Brazzaville.
Oui.
Je pense que le président de l'Église Sassou Nguesso, bien que se disait homme de paix, n'est pas vraiment un homme de paix.
Oui.
Comme nous le connaissons tous, il n'y a pas de paix, la paix civile commence à naître, mais il n'y a pas de paix sociale ni de paix économique au Congo Brazzaville.
D'accord.
Et la paix politique.
D'accord.
Car il y a trop de prisonniers politiques qu'il faut commencer à les libérer en premier.
Oui.
Pour aller au dialogue.
Oui.
Tous unanimement, même ceux qui ont été condamnés après être jugés par le président Denis Sassou Nguesso d'être amitiés.
D'accord.
Je demande au président Denis Sassou Nguesso personnellement,
oui.
Comme étant bon fils de la nation qui parle à son père,
oui.
Avant de créer le dialogue, de mettre la prémisse les conditions d'une véritable paix durable et respectable.
D'accord. Est-ce que vous parlez de la paix au Congo-Brazzaville ou pour le Congo voisin? Parce qu'on sait que cette semaine, Brazzaville a accueilli une rencontre de plusieurs chefs d'État pour évoquer la situation en République démocratique du Congo.
C'est vrai, ils peuvent accueillir plusieurs cas, mais le Congo n'est pas un exemple.
D'accord.
Le président de Sassou Nguesso a toujours eu cette allure de vouloir se mêler les problèmes extérieurs comme étant un bon officiant de paix.
Oui.
Tant qu'on ne fait pas de véritable paix chez soi,
d'accord.
On n'est pas écouté par les autres. D'abord, sur cette table ronde, ça s'est manifesté par l'absence des représentants de la République Congo démocratique.
D'accord.
Donc, le président de Sassou Nguesso n'est pas le meilleur dans cette situation-là. Pourrait parler de la sécurité entre les États, oui.
Oui.
Tam.
Oui.
C'est un militaire. De formation, c'est quelqu'un de la sécurité.
D'accord.
Il s'y connaît. Oui, nous le doutons pas. Mais pour la véritable paix, parce qu'il a déjà repudié les Aïrois, les gens de la RDC vers chez eux.
D'accord.
Il les a refoulés.
D'accord.
Donc, pour eux, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de malsain. Il est à l'origine aussi du conflit.
D'accord.
Car, tant que voisin, il devait simuler à Kabila de le dire depuis longtemps qu'il ne se présenterait plus. Afin que Kabila ne puisse pas se mêler.
Vous pensez que c'est une initiative, l'initiative de Brazzaville, de cette rencontre de chefs d'État, c'est une initiative qui arrive tard aujourd'hui, vous pensez?
Elle arrive très tard.
Oui.
Elle arrive très tard. Elle devait arriver dès avant.
D'accord.
Faire dire à Kabila dès les années que le peuple demandait qu'il ne se représente plus.
Oui.
Étant donné qu'il y avait une masse de la population qui demandait au président Kabila de ne pas se présenter pour essayer de tenir les tensions nerveuses qui existent entre les populations.
D'accord.
Je ne me présenterai pas.
Très bien. Merci beaucoup, Karim, pour votre intervention. Le 01 55 07 58 00, c'est la libre antenne du vendredi. À propos de la République démocratique du Congo, sachez que dans le Nord Kivu, l'annulation des élections de dimanche à Beni et Butembo suscite colère et incompréhension. À Beni, des dizaines de personnes ont manifesté hier pour demander à la CENI de revenir sur sa décision. Plus d'une centaine de personnes agitant des drapeaux congolais sur le boulevard principal de Beni se sont rendues sur place. Il y avait plusieurs manifestations et sachez également que les autorités de la RDC ont donné 48 heures à l'Union européenne pour rappeler son ambassadeur. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Bart Ouvry, a jusqu'à samedi soir pour quitter le pays. L'Union européenne paie ainsi sa décision de renouveler mi-décembre ses sanctions contre 14 officiels congolais, dont le candidat de la majorité présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary. Nous avons en ligne Aiko Mopunji, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, on vous écoute.
Ouais, moi, il y a quelque chose qui est parlant tous les jours. Même s'il y a des élections, même si Kabila organise des élections,
oui.
Le problème est simple. Kabila, le dauphin de Kabila gagnera. Mais le problème que nous disons tous les jours, nous les peuples congolais,
oui.
Nous avons un article qui nous dit si un groupe de gens, ou bien un individu qui prend le pouvoir par la force,
oui.
Ils ne veulent pas quitter, nous les peuples, nous avons le droit aussi de les faire partir par la force. Parce que Kabila parle de la Constitution. Nous aussi, le peuple, nous parlons de la Constitution.
D'accord.
Il n'y aura pas des élections à Beni, Boutembo et Yumbi.
Oui.
Ça, c'est pas bon. Mais le problème des Congolais, pour se débarrasser de Kabila et son régime, de se mettre debout, comme nous avons mis corps et âme, comme nous disons tous les jours, avec la détermination, Kabila, il faut qu'il quitte le Congo. Comme nous avons dit, il va pas se présenter comme candidat, il a nommé un dauphin. Nous, nous voulons plus de son dauphin, là. Nous voulons un Congo, un transition sans Kabila, et
d'accord.
Nous allons diriger le Congo pour mettre et pour organiser des élections transparentes et crédibles après Kabila.
Mais merci.
Après Kabila, il n'y aura pas d'élections.
Merci, Eko Mopunji, merci pour votre intervention. Nous avons ligne Paul pour parler toujours de la République démocratique du Congo. Bonjour, Paul.
Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, tous les auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, comme nous l'avons toujours dit, que M. Kabila et M. Nanga n'ont jamais eu la volonté d'organiser les élections au Congo.
Oui.
C'est pour cela, vous voyez qu'il y a plusieurs théâtres, du matin au soir, plusieurs promesses.
Oui.
Or que les élections, c'est pas une promesse, c'est un droit constitutionnel pour chaque citoyen du monde.
Oui.
Et aujourd'hui, nous voyons que le régime de Kabila n'ont pas envie de nous organiser des élections.
D'accord.
Comme nous l'avons toujours dit, nous vivons dans un pays occupé et dans un régime totalitaire, dictatorial. C'est
d'accord.
Pour ça que nous appelons demain le 29, la communauté congolaise, parce que nous avons organisé un sitting près de l'ambassade du Congo, afin que le Congolais puisse s'exprimer, afin que la communauté internationale puisse voir que le peuple congolais ne veut plus de la Kabylie au Congo. Mmh. Le système Kabylie, le système de Kabila est en train de détruire le peuple congolais, est en train de détruire le Congo. Merci. Appel à tous les Congolais demain, à partir de 14h jusqu'à 17h, nous serons près de l'ambassade de notre pays qui est la représentation national.
Merci Paul pour votre intervention dans l'actualité africaine également cette semaine. Élection présidentielle à Madagascar. Les résultats officiels provisoires publiés hier par la Commission électorale nationale indépendante donnent Andry Rajoelina gagnant de l'élection présidentielle du 19 décembre. L'ancien président de la transition est arrivé en tête avec 55,66% des voix. Son adversaire Marc Ravalomanana obtient 44,34% des suffrages. Andry Rajoelina, 44 ans, est bien connu des Malgaches puisqu'il a déjà été maire de la capitale en 2007 et a dirigé le pays pendant 5 ans, de 2009 à 2013. Et les Ivoiriens qui vivent en Tunisie sont sous le choc après l'assassinat d'un des leurs dans ce pays. Le ressortissant ivoirien Falikou Koulibaly a été tué dimanche soir à Tunis lorsque deux hommes ont tenté de lui voler son téléphone portable. Selon les autorités tunisiennes, ce crime a provoqué l'indignation des ressortissants ivoiriens dans le pays qui ont manifesté pour dénoncer le racisme dont ils sont victimes. Nous avons en ligne Jomo Debeng, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Bilad, merci et bonjour aux auditeurs d'Africa numéro 1.
Bonjour, on vous écoute.
Voilà, je voudrais aujourd'hui me prononcer un tout petit peu sur la situation politique de mon pays,
oui.
La Côte d'Ivoire, qui devient très inquiétante, cette situation. Et j'appelle les uns et les autres à la retenue, surtout les deux grands partis de Côte d'Ivoire, à savoir le FDR et le PDCI.
Oui.
Nous voyons sur la toile par-ci et par-là, nous voyons des conférences de presse du secrétaire général du PDCI,
oui,
du porte-parole du RHDP, mais je pense que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la paix. Parce que, je le dis, nous venons de traverser une décennie de crise qui a fait beaucoup de pertes en vies humaines. Nous n'allons pas nous noter qu'il y a eu déjà 3000 morts.
Oui.
Et aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, même si nous souhaitons sa libération,
oui,
nous avons opté pour la réconciliation.
D'accord.
Mais avoir la position de ces deux grands partis aujourd'hui, je crois que la paix n'est pas pour aujourd'hui.
D'accord.
Mais je demande aux Ivoiriens la retenue,
d'accord,
de chacun et de l'autre. Je demande au président Alassane Ouattara de parler, de dire clairement ce qu'il a envie de dire aux Ivoiriens,
oui,
pour que la paix revienne.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, le président Bédié étant retranché à Daoukro,
oui,
est en train d'être poussé par des militants, soi-disant M. Gikawé et ses alentours, à monter la pression et à mettre la psychose dans la tête des Ivoiriens.
D'accord.
Nous avons tous perdu des personnes. Alors, j'en appelle à toutes ces autorités,
oui,
de mettre bas la terre et,
d'accord,
de penser qu'à la Côte d'Ivoire.
Très bien. Alors, Jomo Debeng, justement, comme vous êtes d'origine ivoirienne, je viens de parler d'un drame qui a touché des Ivoiriens vivant en Tunisie. Il y a aujourd'hui un mécontentement de la communauté ivoirienne en Tunisie après le meurtre d'un ressortissant. Des Ivoiriens ont manifesté et ont parlé de racisme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous suivi cette affaire et ce drame?
Oui, je l'ai suivi et je m'incline sur la dépouille mortelle de ce président-là, qui est d'ailleurs originaire de ma région, bien sûr, qui est Ouarzazou, j'imagine, mais qui était à Oumé, je pense.
D'accord.
Mais je pense que parler de racisme, vous savez, c'est un peu complexe quand vous parlez de racisme.
D'accord.
Et aujourd'hui,
oui,
nous savons que le monde aujourd'hui, avec un seul mot, vous mettez des incidents diplomatiques.
D'accord.
Alors il faut arrêter de faire ça. Nous laissons la justice tunisienne mener les enquêtes jusqu'au bout. Et je pense, je dis bien, je pense, en tant que politicien et en tant que respectueux des droits et de la justice des uns et des autres, je pense que la justice tunisienne fera la lumière et la Côte d'Ivoire sera située dans ce maître.
Merci Jomo Debeng pour votre intervention. Nous avons en ligne William. William, bonjour.
Oui, bonjour Nadir, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, moi en fait je reviens sur la situation de la RDC.
Oui.
Hier je suis intervenu. J'exprimais mon souci, la déception et autres, qui fait qu'aujourd'hui, bon, voilà, le pouvoir de Kabila ne puisse pas vouloir organiser des élections, sauf créer des histoires par-ci, par-là, pour pour faire de, aller de report en report. Mmh. Mais il y a eu, il y a des interventions entre nous, c'est normal, chacun vient avec son opinion, son idée. Dit quelque chose, mais le ministre, ce mec qui s'est passé chez moi à Brazzaville, moi je suis du Congo Brazzaville, voilà. Il y a eu, juste, je peux dire, c'est même pas la, le médecin après la mort, comme on peut le dire, mais c'est le danger qui pointe à l'horizon, qu'on est en train de voir maintenant, parce que moi je suis convaincu, si Kinshasa brûle, Brazzaville sera aussi.
Vous dites que la crise aura des conséquences aussi, des répercussions sur les pays voisins.
Les conséquences, c'est des répercussions sur les pays voisins, la sous-région sera vraiment, ça va bouger. Parce que faut pas. Aujourd'hui, il y a déjà des réfugiés de la RDC qui sont de l'autre côté du nord, chez moi là-bas au Congo Brazzaville.
Oui, oui.
Donc parce que c'est là-bas, c'est entre eux, là-bas, c'est même pas le pouvoir, c'est entre ethnies, deux ethnies qui sont pas mis d'accord. Et il y a eu des tueries, et certains les plus faibles ont fui et les plus forts, ils ont pris même leur terre. Donc il faudrait que nous soyons réalistes.
Oui.
Il faudrait pas qu'on voit seulement parce que bon, au Congo Brazzaville, le président Sassou qui est là, qu'il est dictateur ou comment, peu importe, tel que.
Ouais. Vous pensez qu'il a eu raison d'organiser cette rencontre avec les chefs d'État voisins?
Moi, je dis oui, parce que il faut que je le dise ouvertement. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui qui se passe, c'est-à-dire entre nous aussi, la diaspora. Et on ne veut plus que nous puissions nous faire des analyses. Quand vous faites une analyse, on vous colle une position. Ah oui, c'est un vendu, lui il a fait ceci. Or là, c'est possible preuve de démocratie. Il faudrait que nous analysons les choses comme telles, évitant que ce danger de la ce feu de la RDC vienne chez nous. Nous on est combien? On n'est qu'à peine 4 millions. Mm. La RDC, Kinshasa, c'est-à-dire, si tout le monde vient chez nous, on n'aura plus de place. On sera étouffé.
Oui.
Et ça va, il y aura des conséquences. Moi, j'ai vécu des situations, toutes les guerres chez moi, les guerres civiles, ces bêtises humaines-là que nous avons commises à Brazzaville. J'ai vécu tout, moi. J'ai tout vu. Il y en a parmi nous ici qui n'ont rien vécu, qui sont 40 ans, 30 ans, 35 ans, qui n'ont plus reparti en Afrique, c'est-à-dire. Donc, moi, je dis, on ne se comporte pas des gens qui ont à la violence, mais qui ne cherchent pas à trouver des solutions et une bonne façon de voir les choses. Il faudrait que nous évitons que Kinshasa brûle pour que toute la sous-région soit dans le calme. Sinon, ça va engendrer la sous-région et les conséquences, ce sont ceux qui sont sur place. Nous sommes ici en Occident.
D'accord.
En Europe, en France, c'est tranquille. Mais eux là-bas,
d'accord.
Moi, je vois ça comme ça. Kabila, il est en train de jouer son jeu et c'est au peuple de congolais, de la RDC, même pas les opposants, le peuple, comme dit souvent mon cher frère que j'ai pas encore vu, mais qui parle tout le temps à Yoko Mopongi, il parle de l'article 64. Mais il n'y a que cet article-là qu'ils peuvent prendre pour sortir de la rue et après aller jusque devant le portail de Kabila.
D'accord.
Sinon, ça ne marchera pas. Sur le plan politique, il n'y aura que des discours et après l'opposition va répliquer, le pouvoir va dire quelque chose, l'opposition réplique et le temps va passer.
Très bien.
Donc s'ils veulent se libérer, il faudrait qu'ils se mettent debout eux-mêmes.
D'accord.
Mais il ne faudrait pas qu'on incite des gens à la violence.
Très bien. Très très bien, William. Merci beaucoup pour votre intervention. Le 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Continuez d'appeler et de réagir. Dans le reste de l'actualité africaine, aussi cette semaine, des violences qui se poursuivent au Burkina Faso. 10 gendarmes ont été tués hier dans une embuscade tendue par des hommes armés dans la localité de Touéni, située dans la province du Sourou, non loin de la frontière malienne. C'est la seconde plus lourde perte enregistrée par les forces de sécurité suite à ce genre d'attaque après celle de Nassoumbo en 2016, une attaque qui avait fait 12 morts. Nous avons en ligne Mamadou. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Nadir Djellad.
Bonjour Mamadou, on vous écoute.
Voilà. Vous faites, moi j'ai pas grand chose à dire.
Malgré cette actualité très chargée, vous avez pas grand chose à dire.
Non, je tenais déjà à vous remercier parce que c'est le dernier JDA de l'année.
Ah non, il y a encore lundi, Mamadou. Il y a encore lundi.
Ah, il y a lundi, voilà.
Oui,
mais bon,
oui.
Aujourd'hui, comme c'est le libre antenne, je ne sais pas le lundi, il va avoir quoi comme débat. Donc,
ce sera la République démocratique du Congo, hein, je peux vous le dire déjà.
Voilà,
déjà.
Voilà.
Ouais.
Vous et Madame Stéphanie Hartmann, pour tout ce que vous avez fait avec. Parce que c'est la seule radio où on arrive à s'exprimer. Même s'il y a des divers débats où on n'arrive pas à s'entendre,
oui.
Certains. Qui parle et qui, chose comme on appelle, qui donne la haine par rapport à d'autres personnes, mais ça fait partie des débats. Et puis bon, vraiment, courage à vous et courage à toute l'équipe
d'Africa. Merci, merci. Nous transmettrons à Stéphanie vos encouragements et vos remerciements. Ah oui, merci, merci beaucoup. Nous lui transmettrons également. Merci beaucoup, Mamadou. Mais donc, concernant l'actualité, alors, avec tous les sujets que nous avons évoqués cette semaine, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez revenir, donner votre avis, une réaction ?
Oui. Au fait, je voulais, il y a deux sujets, mais je voulais pas trop, parce que je sais pas s'il y a trop de personnes. Au fait, c'est la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire,
la
oui.
Et la République démocratique du Congo.
Oui.
C'est la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
Mais allez-y, dites ce que vous avez à dire.
J'ai écouté Diomo Debeng tout à l'heure.
Oui.
C'est vrai, 6001 fois, je suis pas d'accord sur ses analyses, mais oui. Aujourd'hui, vraiment, quand je l'écoute, j'ai froid au dos.
Oui.
Parce que, vraiment, ce pays, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas.
Oui.
Je ne sais pas comment ce pays là-bas s'est tiré d'affaire,
M. Oui.
Les choses, M. Nadir Dilan.
Oui.
Parce qu'il ne faut pas se mentir, ce pays a été pollué depuis ma génération, quand moi j'allais à l'école primaire.
Mm.
Quand j'allais à l'école primaire, je vous dis, ces dernières années,
oui.
80, on nous a inculqué, c'est-à-dire, la haine, je ne sais pas, l'anti-oufouettisme. Aujourd'hui,
oui.
On a grandi avec ça.
Oui.
Nous avons la quarantaine.
Oui.
Donc, vraiment, ce pays est tellement mal parti. Et moi, la seule chose que je peux dire au gouvernement actuel,
oui.
C'est-à-dire la réconciliation ivoirienne doit être déjà,
oui.
Commencée déjà par la racine, c'est-à-dire les plus petits, les enfants qui vont à l'école primaire.
D'accord. Là,
eux, il faut essayer d'éduquer. Parce
d'accord,
que
l'éducation nationale. Vous pensez qu'il faut insister sur l'éducation nationale et la priorité du gouvernement doit être l'éducation.
Toute cette génération, c'est une génération pourrie. C'est une génération pourrie.
Ouais, génération pourrie, vous y allez un peu fort, Mamadou. Attendez.
Non, mais je vous dis, je fais partie, même moi, ouais. Je fais partie. Je suis né là-bas, monsieur.
Oui, non, mais j'entends bien.
Mais j'ai retourné ma veste aujourd'hui. Parce que je vous dis, il faut reconnaître, parce qu'arrivé à un moment donné, il faut savoir faire son autocritique soi-même.
D'accord.
Parce que c'est une génération pourrie. Aujourd'hui, on a la quarantaine. Il y a Bégoudé, il y a Soro Guillaume.
Oui.
Même si cette génération-là s'en va, ceux qui vont venir encore, ça va être encore la même chose.
D'accord.
Donc, vraiment, c'est encore tellement difficile. Maintenant, pour la République démocratique du Congo,
oui.
Vraiment, il faudrait que la population s'élève.
Oui.
Parce que hier, c'est ce que je disais, il ne faudrait pas que la population congolaise pense que le Congo, c'est l'ombril du monde.
Oui.
Le
oui.
Congo,
oui.
Au jour d'aujourd'hui, les hommes, on vit, on fait tout ce qui arrive, le Congo ne va pas. Donc, il n'y a que eux qui peuvent eux-mêmes leur donner leur propre indépendance.
Ben, je pense qu'ils le savent, hein, donc c'est pour ça que les Congolais manifestent, se rassemblent, se mobilisent.
Non, mais si là, tu le savais, ils allaient s'élever. Tu le savais, ils allaient s'élever.
Oui.
Mais ils ont tellement, ils pensent tellement que le pays est tellement riche que le monde ne peut pas s'en passer d'eux.
Oui.
Et c'est ça, moi je me dis...
Oui, bon, c'est votre avis, Mamadou, hein, mais je ne crois pas qu'il soit partagé par beaucoup d'auditeurs ou même de Congolais.
Voilà, ça n'engage que moi, mais je dis qu'il n'y a que la révolte nationale qui peut faire partie de ce petit délinquant-là, parce que voir le Congo dans ses états, vraiment, ça fait mal.
D'accord.
Et un pays où il y a eu un prix Nobel de la paix ne mérite pas du tout ça.
D'accord. Merci beaucoup, Mamadou, pour votre intervention sur l'antenne d'Africa numéro 1. Nous avons en ligne Camara. Camara, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Camara, on vous écoute.
Oui, en fait, moi, j'appelle par rapport à nos frères qui se font assassiner dans les pays maghrébins.
Oui.
Et nos gouvernants ne réagissent pas. Et ça fait un certain moment que ça dure.
Oui. Vous évoquez le drame qui a eu lieu en Tunisie, oui, dimanche dernier.
Ouais. Et c'est pas le seul drame qui arrive tout le temps. Il y en a qui sont même isolés.
Oui.
On n'en parle même pas.
Oui.
Bon, oui, on en parle parce que c'est le responsable du président des Ivoiriens de la Tunisie.
Oui, oui.
Tunisie. Et du côté des autres, des Congolais, les Camerounais, tout ça, il y a des gens qui sont toujours assassinés.
Oui.
Et là, moi, je pense que nos gouvernants doivent faire quelque chose parce que si ça continue, je pense que il y a certains Tunisiens, des Marocains, des Algériens, etc., qui vivent dans les pays noirs africains.
Oui.
Donc il faut qu'on nous respecte parce qu'on ne nous respecte pas du tout.
Vous pensez qu'il y a un racisme dans certains pays maghrébins à l'encontre des personnes d'Afrique subsaharienne? C'est ce que
bien sûr.
Pensez, oui.
Bien sûr, vous montez dans le train, ou dans le tramway au Maroc, par exemple, on vous traite des macaques, ou on vous crache dessus.
Oui.
Puisque les gens ne peuvent pas réagir, ils sont obligés d'accepter, ils ne sont pas chez eux. Et moi, je trouve que c'est inhumain, c'est pas normal qu'on traite des êtres humains en 2018 de cette sorte-là.
Oui.
Et nos gouvernants ne réagissent pas. Et je vous assure que c'est, c'est, ça va péter un jour.
Oui,
parce
oui.
que tes gens, ça, ils vivent dans d'autres pays aussi.
Mm-hmm.
Ils sont beaucoup chez nous en Afrique noire.
Oui, oui.
Et à chaque fois que ça se passe, nos gouvernants ne réagissent pas du tout. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ils ne réagissent pas.
Oui, oui.
Ils ne réagissent pas du tout. C'est comme si de rien ne se passe.
Oui.
Voilà, les gens ne sont pas considérés. Les Noirs, dans les pays maghrébins, on est comme des objets.
Alors, sachez juste pour revenir sur vos propos, sachez qu'en Tunisie, il y a plusieurs associations tunisiennes de défense des droits de l'homme qui ont aussi sont montées au créneau et qui ont dénoncé cet acte de dimanche dernier.
Ça, c'est des cas isolés.
Oui.
C'est pas maintenant que ça a commencé, ça. Il y a longtemps, il y a très très longtemps.
Oui.
Moi, je pense qu'il faut arrêter la comédie, quoi. Soit, moi, je suis pas des chefs d'État. Bon, c'est vrai, ils essaient de faire un effort. Moi, je les remercie. Mais nos États sont.
D'accord. Vous souhaitez qu'il y ait un peu plus de pression, une plus forte mobilisation des États lorsqu'il y a, par exemple, certains de leurs ressortissants qui sont victimes d'agressions ou quand ils sont tués, même.
Et le problème, c'est que ces gens qui vont là-bas, ils vont pas parce qu'ils sont malheureux chez eux.
Oui.
On ne peut jamais interdire à quelqu'un d'aller dans un autre pays parce qu'il a besoin de travailler.
Bien sûr, non, bien sûr.
On les assassine, ils sont maltraités comme il ne faut pas. C'est pas normal. Moi, je trouve qu'il faudra que nos gouvernants fassent quelque chose. Sinon, il y aura un moment, ce n'est pas bon.
D'accord.
Parce que ce n'est pas normal. On est des êtres humains.
D'accord.
On respire comme eux, on a du sang, sauf que la couleur n'est pas pareille. Mais sinon, on a les mêmes choses. On a les mêmes ADN, etc.
Et on est tous africains. Merci beaucoup, Camara, pour votre intervention. Nous avons ligne Romain. Romain Taco, bonjour. Allô ?
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, pas très bien, Romain.
Oui, bonjour, ami de JDA. Bonjour à vous-même.
Bonjour.
Moi, je voulais intervenir. Je viens d'entendre aussi des interlocuteurs de tout à l'heure. Et c'est vrai, bon, c'est pas forcément une histoire de couleur en Afrique. Hein.
Oui,
parce
oui.
que quand on voit quand même ce qui se passe au Congo, Kinshasa, en RDC et de Rwanda et dis donc à tout ce que nous subissons, nous avons subi et que nous continuons encore à subir. Et les Rwandais ils sont noirs, ils sont pas arabes non plus. Donc voilà, c'est une question de personnes. Et puis il y a ceux qui se considèrent toujours supérieurs par rapport aux autres. Alors là, moi je voulais quand même poser une question parce que le gouvernement de Kinshasa a que tous les ambassadeurs européens puissent quitter la RDC alors qu'il y en avait besoin.
C'est l'ambassadeur de l'Union européenne, hein. C'est uniquement l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC.
L'Union européenne, oui, voilà. Donc, mais je n'entends pas la position des États-Unis d'Amérique.
Oui.
Parce que Paul Kagame et Museveni ont été mis par Bill Clinton au pouvoir. Et on n'entend pas la position des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Parce que depuis qu'ils sont là, Paul Kagame et des dictateurs sanguinaires tous les deux, on ne les appelle même pas dictateurs, on parle que des résultats économiques de Paul Kagame et de Museveni. Si on pense que les résultats économiques, alors que Kagame et Museveni, ils puissent essayer le Congo pour bâtir chez eux, ben à ce moment-là, si on parle que les résultats économiques, moi je voulais simplement dire ceci. Hitler Adolphe avait des super résultats économiques, oui ou non? Il avait des super résultats économiques. On l'a combattu parce qu'il a voulu aller prendre le pays des autres.
Oui.
Donc, aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on puisse saluer quelqu'un simplement sur les données économiques.
D'accord.
Parce que ça disait que les Rwandais vont mieux. Oui. Et que tout le monde ferme les yeux. Moi, je n'entends pas la position américaine.
Oui.
Il faut que ça soit.
Bah, vous savez que la position américaine depuis l'élection de Donald Trump, vous savez que Donald Trump prône un non-interventionnisme dans les affaires intérieures de certains États, et notamment des États africains. On entend très peu Donald Trump réagir ou les membres de son administration évoquer l'actualité politique africaine. Donc la RDC, pour l'instant, c'est vrai que c'est le silence.
Bon, espérons que ça soit vraiment le cas et que les États-Unis ne vont pas continuer à soutenir Paul Kagame, qui se fait encore élire à 98%, voyez-vous. On a entendu à Madagascar, c'était quand même en tout cas équilibré. Bon, 54% contre 46%, ça se comprend. Mais quand Paul Kagame aujourd'hui se fait élire et tous les opposants rwandais sont déjà en avance éliminés ou discrédités.
Et on
n'attend aucune réaction de la communauté internationale.
D'accord.
Ce qui est curieux. Voilà. Donc, moi, je dis quand même qu'Adamé, c'est un Hitler Adolphe avec une moustache.
Très bien. Merci beaucoup, Romain, pour votre intervention. Nous avons en ligne Irène. Irène, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Irène. On vous écoute.
Oui, je voulais intervenir au sujet de M. Idrissa. Voilà, c'est un Ivoirien, je ne sais pas si c'est un Ivoirien, mais c'est un étranger. Il prend les Ivoiriens pour des cons. Si, celui Guillaume l'avait payé aux trois, qui n'arrive plus à le payer, qui tourne sa veste, ça le concerne entre lui et celui Guillaume. Nous, on s'en fout de ce qu'il ne faut pas aller vers celui Guillaume, il ne faut pas aller vers Bédier. Tous les clics-là, qui sont là. C'est les mêmes. Les Ivoiriens, ce ne sont pas des imbéciles. Donc, on n'a pas besoin d'un griffe. Comme griot.
D'accord, merci. Merci Irène, merci pour votre intervention. Alors, nous allons prendre Jean. Jean, bonjour.
Ouais, bonjour. J'appelle pour intervenir ce qui se passe au Congo hein, actuellement avec l'opposition et le parti au pouvoir.
Oui. Donc, il reste très peu de temps, donc si vous pourriez aller vite.
Donc, pour aller vite, je dirais tout simplement que ces dimanches-là, il n'y aura pas des élections au Congo. Il faut que les Congolais se mettent tous debout. Partout où ils nous entendent, qu'ils se mettent tous debout. Et je fais un appel aussi à nos frères qui sont au pouvoir. Oui. Le pays, on n'a qu'un seul pays, qui est le Congo.
D'accord.
Il reste encore le temps de réfléchir, qu'ils se mettent tous ensemble autour d'une même table.
Très bien, Jean. Merci, je suis désolé, nous devons arrêter, on l'a très bien compris hein, ce que vous vouliez dire. C'est la fin de ce JDA, merci aux auditeurs hein, d'avoir participé à cette émission. Vous étiez très nombreux à vouloir intervenir, nous n'avons pas pu passer toutes les interventions. Continuez le débat sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à tous sur Africa numéro 1.